On va finir la journée avec la dernière session autour de l'hémorragie fœtomaternelle. Il va y avoir deux présentations pour cette dernière session. La première, donc, plutôt l'aspect clinique, on va dire l'hémorragie fœtomaternelle, avec Paul Maurice. Voilà, je te laisse commencer.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous parler des circonstances de découverte des hémorragies fœtomaternelles et vous verrez, j'ai choisi de développer particulièrement trois aspects auxquels on est confronté dans notre pratique assez quotidienne. Donc quelques définitions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie fœtomaternelle? Quel est le mécanisme? Donc c'est simplement en fait le fait que au niveau du placenta, au niveau d'une villosité choriale qu'on voit représentée ici, il y a une brèche dans la paroi de la villosité avec du sang fœtal qui peut faire issue au niveau de la chambre intervilleuse, donc au niveau du placenta, et donc des hématies fœtales vont passer dans la chambre intervilleuse. Et c'est un événement qui est extrêmement fréquent au cours de la grossesse, ça a été évoqué plusieurs fois depuis le début de la journée, donc un passage à très faible volume qui est sans conséquence, sauf à entraîner une alloïmunisation RHD évidemment, et dans certaines situations qui sont heureusement plutôt rares, le volume peut être important avec un retentissement fœtal où on le verra néonatal, et cette proportion est évaluée à 1 sur 1000 à 1 sur 5000 naissances. Alors, à partir de là, on peut se poser la question de à partir de quel volume il peut y avoir un retentissement fœtal ou néonatal. Donc, ce sera peut-être détaillé après, mais donc le test de Kleiauer a un intérêt parce qu'il est quantitatif, même si c'est peu précis. Il permet d'évaluer, à partir du résultat qui est donné en nombre d'hématies fœtales pour 10 000 hématies adultes, le volume sanguin fœtal en millilitres qui est retrouvé et qui est passé dans la circulation maternelle en divisant le résultat premier par deux, et ça vous donne une approche. Et quand on regarde la littérature, on voit que, par exemple, dans cette étude qui est assez ancienne, mais qui reste encore d'actualité, qui était une étude en fait de cohorte rétrospective qui étudiait le devenir fœtal et néonatal des hémorragies fœtomaternelles dans deux maternités en France, à partir d'un seuil de volume d'hémorragie fœtomaternelle de 20 ml de sang fœtal par kilo de poids fœtal, on avait une augmentation significative des issues défavorables qui étaient en l'occurrence, donc qu'on voit ici, qui était en l'occurrence la mort fœtale in utero, la nécessité d'une admission en unité de soins intensifs à la naissance, la nécessité d'une naissance prématurée induite et la nécessité d'une transfusion néonatale. Donc c'est un seuil qui est assez partagé dans la littérature, et donc on a regardé dans les Kleiauer qui avaient été faits au CNRHP sur une période de plus de 10 ans, sur deux maternités, donc à Trousseau et à Robert-Debré, quels étaient les motifs en fait qui étaient précisés sur ces demandes de Kleiauer, et c'était des Kleiauer donc qui étaient supérieurs à 40 hématies fœtales pour 10 000 hématies maternelles, soit un volume fœtal d'au moins 20 millilitres. Et donc on a regardé effectivement quelles étaient les indications de ces tests. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur la période, il y a 47 examens qui ont été demandés, donc qui était avec un résultat supérieur à 40 pour 10 000 hématies adultes. Et donc on voit que le premier motif de cette demande, c'est une patiente qui vient consulter pour une diminution ressentie des mouvements actifs de son fœtus. En deuxième position, un traumatisme. En troisième position, la description d'une anasarque. Et puis on voit également en cinquième position la constatation d'une mort fœtale in utero. Et puis trois autres motifs qui sont un petit peu moins représentés, donc des anomalies du rythme cardiaque fœtal, la présence de métrorragie et une suspicion d'anémie fœtale sans qu'on sache précisément sur quelle base c'était suspecté. Et donc sur ces examens-là, on a retrouvé en fait 15 cas d'anémie, qu'elles soient fœtales ou néonatales. Et si on regarde, je voulais pas préciser ici, mais si on regarde donc la répartition de ces motifs de Kleiauer en fonction de est-ce qu'il y a eu une anémie fœtale ou néonatale, on voit que la diminution des mouvements actifs fœtaux reste le premier motif de réalisation de ce test de Kleiauer. Alors quand on a dit ça, justement, on peut se poser la question, est-ce que vraiment, devant une diminution des mouvements actifs fœtaux, il faut systématiquement démonter un test de Kleiauer? Et donc, je vous présente ici l'étude qui a été réalisée dans le service donc par Johan Attiel notamment, qui justement a essayé d'évaluer la pertinence du test de Clawiwer face à une patiente qui consulte pour diminution des mouvements actifs fœtaux. Donc c'était une étude rétrospective qui a eu lieu sur 2 ans, entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Tous les dossiers donc des patientes qui ont consulté aux urgences à cette période pour diminution des mouvements actifs fœtaux ont été sélectionnés. Donc il y en avait 348. Sur ces 348, il y en a 338 qui ont été gardés. Sur ces 338, il y a eu 327 dossiers pour lesquels un test de Clawiwer a été réalisé. Et parmi ces 327 dossiers, seulement 3 tests de Clawiwer étaient positifs, soit une proportion extrêmement faible, donc de 0,9%. Et si après, alors je vous ai pas mis tout le détail, mais quand on regarde les issues de ces dossiers, en fait, et qu'on calcule les tests de performance diagnostique du Clawiwer et de la mesure des vitesses cérébrales au niveau de l'artère cérébrale moyenne, ce qu'on fait à Trousseau depuis quelques années de façon systématique aux urgences, et on entraîne les internes à le faire dès le début de leur arrivée, on regarde qu'en fait, le test de Clawiwer, mais aussi la mesure du pic systolique de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne, sont tous les deux extrêmement performants pour éliminer une anémie fœtale sévère ou un risque d'anémie néonatale sévère. Donc ce que nous, depuis cette étude-là notamment, on a officialisé à la maternité de Trousseau, c'est devant une patiente qui consulte pour une diminution des mouvements actifs fœtaux, on ne réalise pas de test de Clawiwer en première intention, mais on exige que soit fait de façon correcte une mesure du pic systolique de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne. Et ça a été mentionné plus tôt dans l'après-midi, mais effectivement, c'est pas forcément une mesure qui peut être faite facilement par tout le monde et dans toutes les maternités, mais il est toujours possible d'envisager une organisation des soins avec un prélèvement de sang qui est mis de côté dans l'attente d'une réévaluation du dossier par un senior le lendemain matin, avec la possibilité éventuellement de décider d'envoyer le prélèvement au laboratoire pour un Clawiwer si on pense que, par exemple, la mesure des vitesses cérébrales n'était pas correctement faite et n'a pas permis d'éliminer formellement une anémie fœtale. Alors, je vais maintenant détailler les 3 circonstances dans lesquelles, à mon sens, et par rapport à notre pratique quotidienne, on est amené à se poser la question d'une hémorragie fœto-maternelle. Pour moi, il y en a 3. Donc, il y a tout d'abord la mort fœtale utero. Je parlerai après de l'anémie fœtale. Et puis, enfin, en dernière position, le diagnostic de l'hémorragie fœto-maternelle en néonatal. Donc, pour ce qui est de la mort fœtale utero, on peut d'abord essayer de regarder un petit peu dans la littérature si on prend des séries de cas de mort fœtale utero, quelle est la part imputable aux hémorragies fœto-maternelles. Et donc pour ça, on a une étude qui est une étude rétrospective unicentrique sur 25 ans qui a été faite en Irlande et qui a recherché justement quelle était la part imputable aux hémorragies fœto-maternelles parmi toutes les morts fœtales qui avait été colligé dans ce papier sur une période de 25 ans. Et donc on voit que la proportion de morts fœtales utero imputables aux hémorragies fœto-maternelles est de 4,1% parmi toutes les morts fœtales utero qui avaient été diagnostiquées dans le service en question. Donc c'est une part qui est non négligeable. Et ce que on constate aussi, c'est que sur une période l'étude est un tout petit peu ancienne, mais depuis pas mal d'années, en fait, ce que les auteurs constataient, c'est que cette part imputable aux hémorragies fœto-maternelles, ces morts fœtales utero, donc expliquées par cela, ne diminuaient pas. Et quand on regarde les caractéristiques de la population, on voit que notamment la proportion de patientes à terme pour lesquelles était survenu cet événement était plus importante que dans la population globale, et cela de façon significative, que dans la population globale de patientes avec mort fœtale utero, quel que soit le terme. Et quand on s'intéresse au volume, à la proportion de volume sanguin fœtal qui était passé dans la circulation maternelle, la médiane de ce résultat est à 44, avec une proportion qui va de 3% à 100%. Alors on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est que cette mort fœtale utero liée à une hémorragie fœto-maternelle avec un volume sanguin de 3%? Et en fait, les auteurs expliquent, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être avoir aussi à l'esprit quand on réfléchit sur une étiologie de mort fœtale utero, que si la mort fœtale utero a été constatée de plusieurs semaines, plusieurs jours ou plusieurs semaines après sa survenue supposée, le test de Clawiwer peut être abaissé, et également dans un contexte où, par exemple, une patiente, dans le cas d'une incompatibilité ABO, on sait que les hématies fœtales de groupe A ou B chez une maman qui est de groupe O vont être dégradées plus rapidement et donc peuvent aussi minimiser le résultat du test de Kleiauer. Alors, si on prend le problème dans l'autre sens, à savoir si on essaye de voir quelle est la proportion de d'hémorragie fœto-maternelle qui se complique par une mort fœtale in utero. Pour cela, donc, il y a une étude assez récente, qui est une étude rétrospective multicentrique américaine, qui a été publiée l'année dernière dans l'American Journal, en fait, qui a repris tous les cas d'hémorragie fœto-maternelle sur une dizaine d'années dans plusieurs maternités de plusieurs États aux États-Unis pour essayer de voir la proportion de survenue de mort fœtale in utero dans ce contexte. Et donc là, on voit que en cas d'hémorragie fœto-maternelle, on a environ 24% de risque de décès périnatal. Alors, il ne faisait pas la part des choses entre une mort fœtale in utero et un décès périnatal, mais donc on voit quand même un risque de mortalité qui est assez important. Alors, quand on est face à une mort fœtale in utero, du coup, la question c'est quels autres éléments vont nous orienter vers une hémorragie fœto-maternelle qui nous explique qui explique la mort fœtale. Donc évidemment, l'examen fœtopathologique est très important. Et donc, au niveau de l'examen du fœtus, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc c'est des signes qui sont plutôt aspécifiques, hein, qui sont des signes d'anémie en fait, mais qui sont toujours utiles à rappeler. Donc un fœtus qui va être pâle, qui va avoir en fait absente ce qu'on voit d'habitude dans les autres morts fœtales in utero, à savoir des pétéchies intrathoraciques qui ne seront pas présentes dans ce contexte-là. Également une augmentation de l'hématopoïèse intrahépatique et intrarénale, ce sera en histologie, et puis une augmentation en histologie également de la présence des globules rouges nucléés au niveau de la coupe des vaisseaux, et puis évidemment on pourra avoir un hydrops en cas d'anémie très profonde. Et quand on regarde le placenta, donc vous avez ici représenté un placenta en cas d'hémorragie fœto-maternelle. Donc vous voyez ici que, alors ça ressort pas très bien, mais ici c'est un témoin, et donc vous voyez que le placenta ici est extrêmement pâle par rapport au témoin. Et enfin, d'autres aspects un peu spécifiques qu'on voit régulièrement dans ce contexte, à savoir, donc ici ce sont des vaisseaux fœtaux, mais au niveau du placenta, en coupe axiale, et donc on voit ici la présence de globules rouges nucléés dans la lumière en fait de ces vaisseaux. Donc ça c'est vraiment un signe qui est assez spécifique. Et puis également, on verra également assez souvent, c'est décrit assez fréquemment, la présence de thrombus intervillositaires. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont orienter aussi vers le fait que la mort fœtale in utero est en rapport avec une hémorragie fœto-maternelle. Alors, un deuxième très grand cadre de circonstances de découverte de l'hémorragie fœto-maternelle, évidemment, et ça a été déjà mentionné plusieurs fois depuis le début de l'après-midi, donc c'est l'anémie fœtale. Ça nous concerne beaucoup au CNRHP, évidemment. Donc, pour remettre les choses un peu en contexte, alors j'ai pas exactement les mêmes chiffres que ce qui a été présenté un peu plus tôt dans l'après-midi. C'est aussi parce que les données sont un petit peu plus anciennes et que elles n'ont pas exactement la même source. Mais finalement, quand on regarde les résultats de l'enquête sur les transfusions in utero qui avait été publiée il y a quelques années par le service, on voit quand même, alors la part des hémorragies fœto-maternelles dans les indications de transfusion in utero au cours de la période, elle est située en fait à ce niveau-là. Donc on n'a pas le détail, mais ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est à peu près la troisième cause d'indication de transfusion in utero. Et en revanche, quand on regarde une étude qui a été publiée, alors elle est un peu plus ancienne, mais par l'équipe de Leiden sur 24 ans, donc pour 630 grossesses qui avaient été prises en charge par transfusion in utero, les indications d'hémorragie fœto-maternelle correspondaient à 8 grossesses, donc une proportion de 1,3%. Donc je ne sais pas à quel niveau le chiffre le plus fiable se situe, mais en tout cas je pense qu'on peut retenir que c'est une indication qui n'est pas négligeable. C'est pas du tout la première situation, en tout cas ça reste une situation que nous en pratique clinique quotidienne au CNRHP on rencontre pas tous les jours, possiblement peut-être aussi parce qu'il y a un certain nombre de cas de mort fœtale in utero. Et donc, quand on essaye un petit peu de décrire l'histoire naturelle de l'hémorragie fœto-maternelle qui est prise en charge au cours de la grossesse par un programme de transfusion in utero, finalement, il n'y a pas vraiment de données très fiables dans la littérature. Il y a des revues de cas, en fait, mais qui restent intéressantes. Et la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est celle-ci, qui date de 2018, qui s'est intéressée notamment au risque de nécessité de transfuser plusieurs fois au cours d'une même grossesse en cas d'hémorragie fœto-maternelle. Alors cette étude, elle avait inclus 22 cas, et finalement elle s'était intéressée qu'à 14, parce qu'il y avait 8 cas pour lesquels il y avait une prise en charge avec une première transfusion in utero, mais une naissance qui avait eu lieu dans les 3 jours qui suivaient, alors que justement leur but était de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait au bout de 3 jours. Et donc vous voyez ici, première chose, donc ça c'est les 14 cas pour lesquels la grossesse a été poursuivie au-delà de 3 jours après la première transfusion in utero, c'est que dans les motifs, dans les symptômes décrits par les patientes, on retrouve quand même majoritairement la réduction des mouvements actifs perçus, et puis on voit aussi d'autres motifs comme par exemple un traumatisme. Et puis pour ce qui est donc des signes échographiques dans ce genre de situation, on voit là des signes d'anémie profonde, c'est-à-dire la présence d'un hydrophe, mais également une placentomégalie. Donc c'est des signes qui ont l'habitude, sont des signes évocateurs d'une anémie profonde. Et enfin, un dernier point intéressant, c'est le terme moyen auquel sont prises en charge ces patientes. Donc c'est 27 semaines en gros, donc c'est fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Alors ça, c'est un tableau qui reprend pour chacun des cas, en fait, le nombre de transfusions in utero qui ont eu lieu, le rythme. Et donc vous voyez, première chose, que c'est extrêmement variable. Ça va de une seule transfusion in utero, et donc il y a 4 cas pour lesquels il y a une seule transfusion in utero, et on peut se demander ce qui s'est passé après. En fait, tout simplement, il n'y a pas eu besoin de retransfuser. Et un cas pour lequel, malheureusement, est survenue une mort fœtale. Et puis, vous voyez qu'il y a un cas pour lequel il y a eu 8 transfusions in utero, donc c'est des situations où on peut être amené vraiment à rentrer dans des programmes transfusionnels extrêmement répétés, avec des situations où parfois on sait, nous obstétriciens, que on décide parfois de s'arrêter de transfuser parce que on n'y arrive plus, en fait l'hémorragie est trop active, et donc en fonction du terme on peut être amené à décider d'une naissance. Ici, vous avez les issues de ces grossesses. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que le terme moyen de naissance est autour de 34 semaines. Donc, c'est pas si mal, mais c'est quand même une des situations où on a une prématurité qui n'est pas négligeable et qu'on constate. Et on voit ici le temps écoulé, en fait, entre la première transfusion in utero et la naissance. Donc là encore, c'est extrêmement variable. Il y a des grossesses qui, après la première transfusion, vont quasiment jusqu'à la fin. Donc on peut penser à des hémorragies fœto-maternelles qui ont été, qui sont transitoires et qui s'arrêtent. Et puis d'autres situations où la naissance a lieu très rapidement. Et donc des situations où, en fait, on n'arrive pas, hein, simplement à compenser l'hémorragie fœto-maternelle. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir de tout ça que les hémorragies fœto-maternelles qui sont génératrices d'anémie fœtale, elles ont une évolution qui est difficile à prévoir, que la nécessité de retransfuser après une première transfusion in utero, elle est assez fréquente, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance combien de temps il va falloir transfuser, que on sait aussi, et ça fait partie des informations qu'on donne aux patientes, que si on n'arrive pas à transfuser, à maintenir stable l'hémoglobine du fœtus, on va être amené éventuellement à discuter d'une naissance, et on aura pour cela aussi, on aura éventuellement réalisé la cure de la maturation pulmonaire fœtale par corticoïde au vu de ce risque. Et puis aussi, ces patientes-là, évidemment, on les garde hospitalisées une semaine, deux semaines, on les surveille très régulièrement, on fait des échographies tous les jours, on fait des monitoring cardiaques fœtaux quand on est à un terme de monitoring plusieurs fois par jour. Voilà, on sait que c'est des patientes qu'il faut surveiller de très près et que y a un risque non négligeable de devoir faire naître les fœtus prématurément. Et enfin, la troisième situation pour laquelle qui me paraît, moi, être une circonstance importante à évoquer, c'est la découverte de l'hémorragie fœto-maternelle à la naissance chez un bébé qui va être anémié à la naissance, qu'elle ait été suspectée ou pas. Et donc, pour vous illustrer un petit peu ça, je voulais vous montrer une étude qui est parue très très récemment aussi dans Transfusion et qui justement s'est intéressée à décrire la proportion, en fait, le risque d'hémorragie fœto-maternelle découvert à la naissance, et notamment est-ce que c'était diagnostiqué ou pas. Alors, ils sont partis, donc c'est une étude rétrospective multicentrique américaine, ils sont partis de environ 300 000 naissances sur une période de 10 ans, entre 2010 et 2020, je crois. Ils ont regardé sur ces grossesses-là, en fait, où c'était une étude sur base de données, hein, ils ont regardé le nombre de tests, donc à savoir Clyower ou cytométrie flux, pour lequel une hémorragie fœto-maternelle avait été réalisée en postpartum, donc il y en avait 1375. Et parmi ces dossiers-là, ils ont regardé les nouveau-nés chez qui avait été réalisée une transfusion néonatale ou une admission en soins intensifs pour anémie profonde. Et donc il y avait ils sont passés par les tests qui étaient positifs, excusez-moi, et donc sur 786 tests positifs, en fait, il y avait 25 nouveau-nés qui avaient été admis en soins intensifs du fait d'une anémie néonatale avec donc une hémorragie fœto-maternelle certaine et responsable d'une morbidité néonatale. Et puis ils ont également parmi ces dossiers-là, donc il y en avait quatre pour lesquels en fait il y avait deux tests qui étaient négatifs, un test qui avait été réalisé chez le nouveau-né et pas chez la maman, et un test pour lequel il n'avait pas le résultat. Et en fait, c'était des dossiers pour lesquels il y avait également une situation qui évoquait une hémorragie fœto-maternelle, puisque c'était des dossiers pour lesquels les nouveau-nés avaient été transfusés dès la naissance et qu'il n'y avait pas d'autre cause pour évoquer pour expliquer cette anémie. Et ils ont repris rétrospectivement aussi tous les cas pour lesquels il y avait eu une anémie néonatale sans cause évidente et à l'exclusion des autres causes habituelles d'anémie. Et donc ils ont retrouvé 17 cas de nouveau-nés qui ont été transfusés en urgence à la naissance, pour lesquels, après révision des dossiers, l'hémorragie fœto-maternelle était extrêmement probable, même en l'absence de tests biologiques qui le confirment. Et ils ont regardé le devenir de ces différents cas. Et donc dans le groupe des nouveau-nés pour lequel l'hémorragie fœto-maternelle avait été diagnostiquée et suspectée, ce qu'on voit, c'est que notamment on a encore quand même des patientes qui décrivaient une diminution des mouvements actifs le jour de la naissance. Pour les nouveau-nés pour lesquels l'hémoglobine avait été demandée au cordon, il y en avait 12 pour lesquels elle était inférieure à 5. 21 de ces nouveau-nés avaient été transfusés à J0, et il y a quand même deux nouveau-nés qui sont décédés. Et dans le groupe des nouveau-nés transfusés sans que l'hémorragie fœto-maternelle ait été suspectée au moment de la naissance, on voit que donc ils ont tous été transfusés à la naissance, et on voit qu'il y a 8 décès. Donc un chiffre qui est quand même très important. Donc finalement, de tout ça, qu'est-ce qu'ils retiennent et qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est d'abord que sur une période de 10 ans, ils ont dans une étude multicentrique, ils ont évalué un risque d'anémie néonatale en lien avec une hémorragie fœto-maternelle évalué à environ 1 sur 7000 naissances vivantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils arrivaient dans tous les cas, en fait, globalement, à dire si l'hémorragie fœto-maternelle était aiguë ou chronique, à savoir est-ce qu'elle était survenue le jour de la naissance ou dans les jours précédents, simplement sur en fait la proportion des globules rouges nucléés présents dans le sang du fœtus. Et donc il y avait 10 cas sur 42 d'hémorragie fœto-maternelle considérée comme aiguë, et puis surtout 40%, plus de 40% de cas pour lesquels l'hémorragie fœto-maternelle n'avait pas été ni suspecté, ni diagnostiqué à la naissance. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut toujours y penser quand on a une anémie néonatale inexpliquée, et prévenir le collègue néonatologiste pour dire que possiblement on a donc une hémorragie fœto-maternelle, donc faire une numération au cordon, faire un test de Clyower pour guider la prise en charge dès la naissance. Voilà. Enfin, en conclusion, dans ces situations-là, donc d'hémorragie fœto-maternelle, donc on sait, alors évidemment, on se pose la question de la cause. Donc plus de 80% des situations, finalement, il n'y a pas d'étiologie qui est retrouvée. Alors, j'ai pas détaillé, mais évidemment, le traumatisme abdominal est une cause d'hémorragie fœto-maternelle, mais c'est pas la cause la plus. Enfin, c'est pas du tout la majorité des cas. Vraiment, dans la majorité des cas, on retrouve pas de cause. Et quand on retrouve pas de cause, il faut être vigilant. Pourquoi ? Parce que, ah oui, pardon, je vous ai pas dit, excusez-moi. Donc, on sait également, et ça, c'est une information qu'on peut donner aux patientes, que le risque de récurrence en l'absence de cause retrouvée et lors d'une nouvelle grossesse, il a été évalué comme extrêmement faible, donc 0,5%. Donc, il faut être rassurant pour d'autres grossesses, surtout chez des patientes qui, en général, sont très traumatisé par cet événement qui survient très brutalement. Et donc quand on n'a pas retrouvé de cause, il faut se méfier d'une cause sous-jacente qu'on ne verra pas forcément pendant la grossesse, qui est le choriocarcinome, qui est une dégénérescence maligne du tissu placentaire, qui est quelque chose qui est très rare, mais qu'on ne pourra confirmer que par une analyse histologique très poussée du placenta, et qui en elle-même ne suffira pas non plus, parce que parfois on peut passer à côté même à la lecture du placenta, et donc on recommande également de faire une surveillance des HCG en postpartum pour vérifier leur diminution, pour être certain qu'il n'y a pas un chorio-carcinome sous-jacent. Et vous voyez ici l'image d'une patiente qui avait perdu un nouveau-né à 29 semaines, une césarienne en urgence pour une suspicion d'hémorragie fœto-maternelle de cause inexpliquée, et donc des métrorragies persistantes et des HCG toujours augmentés à plusieurs semaines du postpartum, et à l'échographie, en fait, une image intra-utérine hétérogène qui était vascularisée, qui en fait était un chorio-carcinome. Et enfin, une dernière chose qui est très importante, c'est qu'évidemment, quand on a une issue massive de sang fœtal dans la circulation sanguine maternelle, le risque d'alloimmunisation, il est majeur. Donc ce sont des patientes chez qui il va falloir surveiller la non-survenue d'une alloimmunisation à distance de l'événement.